CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, l'émission en jase, ton émission d'actualité du midi. On parle de politique locale, provinciale, fédérale. On analyse des grands dossiers. D'ailleurs, j'avais donné une mission à Pascal CV. J'avais dit, Pascal, va me creuser ça. Qu'est-ce qui se passe avec le dossier santé numérique? D'après moi, ça va pas bien pour le 9 mai. Région de Montréal, région de la Mauricie, projet pilote. Pascal, on va en parler dans l'heure de 13, mais ouais. Ça va vraiment pas bien. C'est ça ce que je comprends. Hein?
Ben oui, puis tu sais, salut Jeff, parce que j'avais la broue dans le toupet ce matin.
C'est ça.
On s'est à peu près pas vu. Puis initialement, à vous, tu m'avais dit, hey, on va prendre des nouvelles, on va voir où on en est, on va informer les gens. Puis moi, chaque jour, je suis arrivée en disant, Jeff, ça va pas bien, j'ai pas de retour. Personne veut me parler chez Santé Québec. Garde, écoute, ils ont peut-être leur raison, mais plus je creusais, plus je me rendais compte que la raison, c'est possiblement le fait qu'on va retarder l'implantation du projet pilote.
Exactement.
Et ou qu'on n'est pas prêt. Et ça, on va s'en parler tantôt.
Oh oui, on s'en parle tantôt avec plaisir. Alicia Despins va être là également, chronique politique municipale aux alentours de 12h45. Et Roger Ferland qui va être présent aussi vers 12h30. Puis je te laisserai commencer avec ceci, Pascal, parce que grosse nouvelle dans le cas de l'ado qui avait été tué en septembre 2024 à Frampton-en-Beauce.
Ah oui, énorme nouvelle. C'est genre de je pense que c'est la première nouvelle où on a été encore plus conscientisé ici à Québec qu'un enfant pouvait mourir suite à des sévices violents physiques issus du crime organisé. Mm-hmm. Et là, deux individus qui ont été arrêtés par la Sûreté du Québec pour cette histoire-là où il y avait le corps d'un jeune qui avait été retrouvé sur le terrain du repère d'un club-école des Hells Angels, oui, en Beauce, à Frampton. C'était Mohamed Yanis Segouani, 14 ans, de Saint-Léonard, à Montréal. T'sais, déjà, on se disait, voyons, un jeune de Montréal rendu ici, retrouvé mort, violenté. Il avait été tué en septembre 2024. Et c'était sur le terrain du repère des Red Devils, au deuxième rang à Frampton. Et ces deux hommes-là qui ont été arrêtés aujourd'hui, c'est vraiment en lien avec la mort de l'adolescent. Alors, c'est des photos qu'on a, c'est un déploiement policier que l'on a. C'est Dawson Cyr, l'éveillé, 24 ans, qui a été arrêté dans le coin de Salaberry de Valleyfield aujourd'hui. Accusation de décharge d'armes à feu, d'incendie criminel sur un bâtiment ou sur un véhicule. Puis il devrait comparaître en journée au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Pour l'autre suspect, il y a 30 ans, j'ai pas de nom pour toi. On va suivre ça. Mais il a été arrêté à l'établissement de détention de Québec. Dossier qui a été soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales. Oui, j'ai bien dit, arrêté à l'établissement de détention de Québec.
Ouais.
Donc, c'est déjà quelqu'un qui avait clairement pas une belle jambe ou un CV à présenter à ta mère. Là.
Exactement. Excellente nouvelle, honnêtement, au niveau judiciaire. On en parle avec Roger Ferland aux alentours de 12h30.
Stationnement dans le Vieux-Québec, ça fait un peu écho au dossier qu'on a fait ensemble, Jeff, récemment, sur le mieux vivre du Vieux-Québec. Comment est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Là, la Ville a sûrement entendu les échos, oui, du travail des journalistes, du nôtre, mais surtout des résidents, parce qu'on libère temporairement des cases pour les résidents. Des places qui seront accessibles les soirs et les fins de semaine, c'était l'une des demandes de ceux à qui j'avais parlé aussi, au moins de libérer ça pendant qu'il n'y a pas de chantier, pendant qu'il n'y a pas de travailleurs. Et bon, on déplorait ce manque de stationnement-là depuis le début des travaux au chantier, depuis mars, particulièrement dans le secteur de la rue des Remparts. Et voilà pourquoi on a décidé d'en débloquer. Ça va être sur la rue des Remparts et ça devrait être disponible pour les résidents les soirs, nuits, fin de semaine de 17h à 7h. Il y a toujours des insatisfactions. Entre autres, rappelle-toi, j'avais parlé à Neil Williams qui était résident, qui disait, tu sais, moi, c'est aussi un enjeu de sécurité pour ma fille de 17 ans. Voilà, c'est une bonne nouvelle dans un dossier pas fini. Et 48e jour de la guerre au Moyen-Orient, parlons-en d'un dossier pas fini. Là, le Liban et Israël vont commencer une trêve de 17 heures. Alors, c'est un cessez-le-feu. Israël et le Liban étaient toujours en train d'être militairement engagés avec des offensives, avec des armements, malgré que les États-Unis et l'Iran s'étaient dit, on va attendre un peu, on va essayer de négocier. Négociations qui ne vont pas très bien.
Non.
Mais voilà qu'ils suivent la danse.
Alors, maintenant, très bonne nouvelle. On passe avec notre nouvelle collaboratrice.
Le caucus. Ce qui se passe autour de nous, ce qui influence nos vies, les vrais enjeux expliqués simplement. Emmanuel Latraverse vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez interagir au 418-971-1021. On va la rejoindre immédiatement, Emmanuel Latraverse. Comment vas-tu, ma chère Emmanuel?
Ça va bien, merci. Heureuse d'être avec vous.
Hey, on est super contents, nous aussi, que tu sois avec nous sur les ondes de Boulevard 102.1. Merci d'avoir accepté cette mission-là. On se sent choyé aujourd'hui.
Ah, oh, ben c'est moi qui ai choyé d'apprendre à vous connaître puis de parler à vos auditeurs, au contraire.
Excellent. Emmanuel, on commence avec le sondage Palace qui a été dévoilé. Le PQ sous la barre des 30 % pour la première fois depuis longtemps, 29 % Le Parti libéral du Québec en avance à 32 % Ça te dit quoi, ce sondage-là, ce premier sondage de l'ère Christine Fréchette comme première ministre?
Oui, en tout respect, je ne suis pas sûre qu'on peut vraiment l'appeler le premier sondage de l'ère Fréchette, parce que dans les faits, il va falloir laisser le temps à ce qu'elle pose des gestes, qu'elle prenne des décisions, qu'elle assermente son conseil des ministres pour voir comment est-ce que ça percole, je pense, dans l'électorat. Mais c'est certainement un sondage qui vient confirmer l'espèce d'épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête du Parti québécois et qui vient confirmer à quel point les appuis du PQ dans la dernière année étaient dopés par l'absence d'alternative. Monsieur Saint-Pierre Plamondon a été très habile à devenir le refuge de la colère anti-François Legault. Mais la réalité, c'est on ne voit plus, n'évalue plus les chefs de la même façon. C'est pas ce qui est le meilleur chef d'opposition face à François Legault, c'est qui va être le meilleur premier ministre. Et ça change l'évaluation que font les électeurs, d'autant plus que le Parti québécois vient avec un référendum. Puis ça, on ne peut pas lui reprocher d'avoir caché son option dans les dernières années, au contraire. Mais là, les électeurs, je pense, commencent à intégrer dans leur choix les conséquences référendaires d'un vote pour le Parti québécois, ce qui n'était pas le cas quand on était à un an et demi des élections. Puis la réalité, c'est que Charles Millard, vous allez me dire, on ne le connaît pas. Puis la majorité des électeurs ne le connaît pas bien. Mais jusqu'ici, il n'a pas fait de gaffe. Fait qu'il est encore comme une espèce de page, pas une page blanche, mais il est encore un concept qui permet de rêver sans avoir rien à lui reprocher.
Pas de tâche à
Donc,
son
il
dossier.
Il est encore dans sa période de grâce, tu sais.
En effet, Charles Millard est encore dans sa période de grâce. Je suis très d'accord avec toi. On l'écoute cependant. Tu sais, même si on dit que les politiciens ne commentent jamais un sondage, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il l'a commenté par la bande.
Changement démographique. Écoutez, les 18-34 ans, dans le sondage, je sais qu'on ne doit pas commenter les sondages, mais on finit toujours par le faire. Les 18-34 ans, dans le sondage d'hier, le numéro un, c'est nous. Les 55 ans et plus, c'est nous. Donc, le changement démographique, moi, je veux que tout le monde se reconnaisse dans le projet politique du Parti libéral du Québec. Alors, on verra ce que ça va donner. Vous connaissez les appuis chez les francophones. On a encore beaucoup de travail à faire chez les non-francophones. Vous les connaissez, les chiffres sont là. Mais moi, je m'attelle à gagner la confiance de tout le monde qui a le droit de vote au Québec.
Très surpris, moi, Emmanuel, que les 18-34 ans se tournent vers le Parti libéral, parce que dans l'année, on a entendu les jeunes s'intéressent à la souveraineté, les jeunes ont des idées plus de droite conservatrice. Et là, dans ce sondage-là, les 18-34 ans frappent à la porte du Parti libéral.
Oui, mais les 18-34 ans, la réalité, c'est qu'à cause, je pense, de l'incertitude économique, de la difficulté d'accès au logement, à la propriété, etc., ils sont happés par des enjeux très prosaïques, très proches de la réalité. Ils ne sont pas dans les grands concepts de justice sociale, là. Donc ça, je pense que ça change aussi le portrait. Il y a l'avantage aussi que M. Millard, bon, il n'est pas de cette génération-là, là, il n'a pas 34 ans, mais on est avec un leadership plus jeune. Je pense qu'il va falloir laisser le temps à l'électorat de se... Moi, je ne suis pas prête à l'heure où on se parle en ce moment de tirer des conclusions sur l'issue de ces sondages. Je pense que ce que ce sondage et les autres depuis le début de l'année nous disent, c'est que l'électorat, c'est comme des plaques là, tu sais, qui bougent, là, des plaques tectoniques. L'électorat est en train de commencer à évaluer les chefs, est en train de commencer à sous-peser les options, et ça illustre que la course électorale est grande ouverte. C'est et qu'il n'y a rien de coulé dans le béton.
Oui, puis il y a une tendance qu'on semble remarquer, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Emmanuel, là-dessus, mais il y a un genre de nouveau vote qui se fait, qui est beaucoup plus pour ce que ça peut avoir l'air un parti que ce qu'il est foncièrement. Parce qu'on voit une CAQ qui est détestée, qui, en changement de cap avec Christine Fréchette, pourrait reprendre de l'appréciation de la part des électeurs. On voit un parti libéral qui est pointé du doigt, qui est fragmenté, qui est à la fois en chaos total et détesté par les électeurs, remonter de cette manière-là. Il y a des choses qui nous ramènent le dicton « je me souviens pas ».
Ah oui, non, mais je me souviens pas. Je choisis, tu sais, où je peux te citer Martin Saint-Louis, je joue la game qu'on me donne, là, tu sais. C'est un peu ça, là, en ce moment. Moi, je pense que ce que ça nous dit, c'est que les sondages ont beaucoup bougé. Que là, maintenant, c'est pas comme... On n'est pas devant un phénomène de page blanche, mais on remet une partie des compteurs à zéro. Dans le sens où Paul Saint-Pierre Plamondon ne perd pas l'appréciation. Tu sais, tout le travail qu'il a fait pour ramener les souverainistes au bercail, ça reste. Tout le travail de reconstruction qu'a fait le Parti libéral pour se refaire une étoffe, une virginité éthique, ça reste. Parce que je pense que les gens ont classé l'épisode de l'automne comme le problème de Pablo. Et que le Parti libéral a été très habile à essayer de s'isoler un peu de ça. C'est ce que permet l'arrivée d'un nouveau chef. Puis, Mme Fréchette, ben, elle essaye de dire, ben, si vous voulez pas de référendum, puis vous croyez pas, je suis votre bon plan B.
Oui, mais que vous êtes nationaliste, mais que vous voulez pas de référendum, je suis là. C'est un peu ça, tu sais, c'est le plan B des souverainistes qui, finalement, sont pas très chauds à l'idée. En raison de l'incertitude économique.
Oui, mais tu sais, ce qu'il y a de très difficile, c'est que dans une course à cinq, là, comme on va avoir, il n'y aura pas une campagne électorale. Là. Il va en avoir au moins trois, quatre. Là. Il va y avoir une campagne électorale à Montréal, il va y avoir une campagne électorale à Québec, il va y avoir une campagne électorale dans les régions très francophones. Puis ces trois campagnes électorales-là, ça ne sera pas les mêmes, ça ne sera pas les mêmes partis, puis ça ne sera pas les mêmes courses à trois qui vont se dessiner. Là. C'est à ça qu'il faut penser aussi. Puis donc, Mme Fréchette, on va voir comment elle s'en sort. On va voir comment elle réussit à articuler sa vision. Puis si elle est capable ce flambeau de la troisième voie ou bien si Éric Duhaime va être capable de la lui ravir.
S'il est capable de garder le flambeau de la troisième voie ou si Éric Duhaime est capable de lui ravir, juste parce que ça a coupé un peu,
oui,
je voulais
exactement
repréciser les propos d'Emmanuel.
Emmanuel, je te fais entendre Paul Saint-Pierre Plamondon qui a envoyé une lettre ouverte aujourd'hui dans les médias. Il nous revient avec l'histoire, avec Honoré Mercier. Il explique tout à l'heure en conférence de presse pourquoi il l'a fait.
Je parle d'histoire, ça fait réagir, mais il y a des choses qui se répètent, avec certaines nuances, bien sûr, mais il y a des choses qui se répètent et qui, aujourd'hui, je pense, doivent résonner devant une reconfiguration de la politique au Québec où le Parti libéral et la CAQ vont prôner des politiques qui, de mon point de vue et du point de vue de plusieurs centaines de milliers de Québécois, ne sont pas suffisantes ou sont même problématiques sur le plan de notre pérennité linguistique, notre pérennité culturelle.
Emmanuel, je me rappelle d'un temps pas si lointain où Paul Saint-Pierre Plamondon a amené comme débat à l'Assemblée nationale le temps d'écran chez les jeunes, la crise des opioïdes. Ça parlait énormément à la population. Là, quand je regarde le sondage Léger dans la fin de semaine, les trois points les plus importants pour la population, santé, économie, puis le coût de la vie. Ça, il n'en parle pas avec sa lettre ouverte. Il est-tu en train d'essayer de juste parler à ses militants ou essayer de défendre qu'est-ce qu'est le PQ plutôt que de venir parler au cœur des gens?
Je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon essaie de se donner les moyens d'élargir la tente du Parti québécois. Parce que c'est ce que démontre l'effritement, mais qui n'est pas catastrophique, là, mais qui est réel là, dans les appuis du PQ, c'est l'inquiétude face à la tenue d'un référendum. Là. C'est ça qui cause la perte d'appui auprès d'un électorat nationaliste. Donc, ce que ça montre, c'est que le plaidoyer qu'a fait jusqu'ici Paul Saint-Pierre Plamondon pour la souveraineté n'est pas suffisant à rassurer l'électorat qui lui est disponible à aller chercher. Et c'est ce qu'il essaie de faire avec sa publicité sur le nationalisme, avec sa lettre ouverte sur le nationalisme aujourd'hui. C'est d'essayer de faire la pédagogie qui est comme qu'on croyait faite en vérité, puis que Mark Carney a comme permis d'effacer, là, c'est toute la pédagogie du Parti québécois de dire, écoutez, avec Ottawa, c'est une centralisation, c'est une perte d'autonomie. Nous n'avons d'autre choix que celui de la souveraineté. Mm-hmm. Nationaliste, vous devez venir chez nous, tu sais.
Mais de s'attaquer, s'attaquer à Mark Carney, qui est très populaire présentement au Québec, c'est un pari risqué.
Oui, est-ce que c'est Mark Carney lui-même qui est populaire ou est-ce que c'est ce qu'incarne son gouvernement? La compétence, la stabilité, le respect à l'international. La réalité, c'est que le Parti québécois souffre du même problème que Pierre Poilievre, c'est qu'il a perdu son épouvantail woke centralisateur de Justin Trudeau, tu sais. Alors maintenant, ça, c'est sûr que ça exige des ajustements. Il ne peut pas reprocher au gouvernement Carney d'être le plus centralisateur de l'histoire du Canada. Il n'a pas posé de gestes précis en ce sens. Il peut amplement reprocher, cependant, à M. Carney d'être désintéressé par les enjeux qui touchent et qui ont un impact sur l'autonomie québécoise, mm-hmm. et de ne pas être à la hauteur de ces attentes-là, parce que M. Carney est un gouvernement avec des œillères en ce moment qui sont strictement... économique et géopolitique, comme s'il n'y avait rien d'autre qui passait. Mais moi, ce qu'on voit en ce moment, c'est un Parti québécois qui est en train d'essayer de s'ajuster au nouvel environnement dans lequel il évolue et auquel il ne pouvait pas... Tu sais, tu peux pas t'ajuster à l'avance, mais je pense qu'il fait bien de le faire. Le risque pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, ce serait de faire comme Pierre Poilievre a fait l'an dernier, de s'entêter, de dire « ma recette a marché pendant 4 ans, elle va continuer pour le dernier droit ». Monsieur Saint-Pierre Plamondon est dans un moment où il doit trouver une façon d'ajuster son discours à cause de l'anxiété économique, mm-hmm. à cause de la donne démographique, des changements qui arrivent, la question, et à cause de cette lune de miel qui se poursuit pour l'instant avec M. Carney. Puis tu sais, avec M. Carney, t'as pas besoin d'avoir une lune de miel où c'est l'amour total. T'as besoin d'avoir un gouvernement qui, jusqu'ici, ne pose pas le geste qui va mener à une rupture. Puis je pense qu'à ce chapitre, M. Carney a réussi à éviter ça.
Il y a quelque chose d'intéressant avec Paul-Saint-Pierre Plamondon aussi, qui est peu souvent discuté, mais nous, on en fait quand même une pièce maîtresse quand on parle de lui. C'est le ton, l'attitude qu'il a. Il est passé d'une attitude sereine, en pleine possession de ses moyens dans des débats, à une attitude un petit peu plus combative, et on la voit justement prendre un peu plus d'ampleur. Est-ce que ça peut nuire dans les relations intergouvernementales entre les paliers, puis aussi dans une suite politique?
Mais tu sais, intergouvernemental, que Paul-Saint-Pierre Plamondon soit tout mouton ou tout lion, les relations seront jamais très bonnes avec Ottawa, premièrement. Là. Je pense qu'on s'entend, là.
Ah oui? Pourquoi? Explique-nous que... ça.
Je sais pas, hein, vraiment, mon Dieu. Mais ce qu'on voit dans les chiffres, c'est qu'il y a une vulnérabilité très claire auprès de l'électorat féminin, qui a, de un, toujours été plus réfractaire à l'idée de souveraineté, mm-hmm. mais où on a vu comme une presque rupture là, avec l'histoire puis l'affrontement avec les artistes et le monde culturel avant Noël. Donc, c'est difficile hein, pour M. Saint-Pierre Plamondon. Il était le jeune premier, l'idéaliste, le plus jeune, le petit nouveau. Tout le monde l'aimait. Puis là, tout d'un coup, il se retrouve presque du jour au lendemain à être le doyen des chefs de parti. Là.
En effet.
Il n'incarne plus la figure de nouveauté. Mm-hmm. Puis ça aussi, ça exige des ajustements importants. Puis c'est pas facile parce qu'on est vraiment dans un monde où l'électorat recherche l'authenticité, tu sais. Puis M. Plamondon a toujours été, puis je le dis sans condescendance et sans mépris, mais il y a un côté dogmatique à son approche politique, là, tu sais. Puis on l'a vu, on trouvait ça adorable quand c'était pour dire qu'il n'allait pas prêter serment au roi. Là, maintenant, comment tu fais que ce côté-là de sa personne ne mette pas en valeur le côté plus rébarbatif du dogmatisme de son approche politique. C'est pas évident comme ajustement, l'espèce de virage qu'il doit réussir à faire dans l'espace public pour ne pas se dénaturer, t'sais, pour garder le meilleur de sa candidature, mais face à des sables mouvants en ce moment-là.
Parce que c'est moi qui se trompe ou son côté dogmatique devient très moralisateur aussi. T'sais, les gens ont l'impression de se faire faire la morale, comme avec sa lettre d'opinion de ce matin.
Oui, c'est surtout que, tu sais, tu peux pas dire aux gens « vous avez pas compris ».
Oui, c'est ça.
Tu sais, moi, je pense que c'est la plus grande... Tu sais, dans les grandes leçons politiques qu'on a apprises dans les dernières années, là, c'est ce qui est arrivé à l'administration Biden, là, tu sais, où les États-Unis avaient une croissance économique en feu, c'était extraordinaire, mais il y avait l'inflation... Et donc, on a une administration Biden qui a passé un an et demi à dire aux gens « Non, mais vous comprenez pas, ça va bien. Ben, » les gens disent « Je m'en ai rien à... »
Mais non, c'est ça, moi, j'en ai
moins. Moi, ça va pas bien.
C'est ça, j'en ai moins dans mes poches, puis je vais aux banques alimentaires. Fait que je comprends que ça va pas bien.
Alors, c'est très périlleux, je pense, pour le mouvement indépendantiste de dire « Vous comprenez pas, Marconi, il est pas bon pour vous. » Mais les gens, c'est pas des débiles, là. Je veux dire, les électeurs Non, mais les gens ont le choix de trouver que Marconi est bon ou pas bon.
Ouais.
Ils ont le choix d'évaluer les candidatures. Alors, comment, quand pendant des années, tu as eu un gouvernement à Ottawa qui te permettait de définir le mouvement souverainiste comme un antidote à un gouvernement fédéral trop dépensier, centralisateur, woke et tout le reste... Puis que là, tout d'un coup, il faut que tu recadres ton discours face à une nouvelle réalité politique. Je pense qu'il faut quand même reconnaître que c'est pas facile et que c'est pas évident pour le Parti québécois de trouver la bonne voie de passage là-dedans. Je pense qu'il fait bien d'essayer différentes choses en espérant qu'il y en a une qui va mieux marcher, mais... Il fait bien d'ajuster son discours parce que de ne pas le faire serait encore plus périlleux pour lui, je crois.
Puis en plus qu'il a perdu Justin Trudeau et le wokiste à Ottawa, ben il a perdu son François et son Pablo aussi qui était facile à attaquer. Fait que il est rendu à trois prises, là.
Ouais, ouais, tu sais, tout d'un coup, t'as plus les mêmes joueurs sur la glace, là, tu sais. Fait qu'il se retrouve avec un premier trio plus solide de l'autre côté, là, tu sais.
En effet. Emmanuel, je veux qu'on termine et vous êtes dans le caucus avec Emmanuel Latendresse. C'est du lundi au jeudi dans l'émission.
T'as dit Latendresse.
Latendresse.
La traverse.
La traverse. Hey, je savais que je ferais cette erreur-là. En plus, je sais pas pourquoi dans ma tête.
Non, mais c'est correct. Mais François Legault, quand il est revenu pour fonder la coalition Avenir Québec, pendant un an et demi, à chaque fois qu'il faisait une entrevue avec moi, il m'appelait la tendresse. Donc, ça ne me blesse pas. Fais-toi en pas, t'es pas le premier.
T'es trop gentil. Emmanuel, la traverse, le caucus, de midi à midi 30 sur les ondes de Boulevard 102.1. On écoute Yves-François Blanchet qui explique la défaite du Bloc québécois dans Terrebonne puis qui nous ramène à un discours qu'on avait entendu il y a de cela 30 ans, la suite d'un référendum perdu.
Est-ce que vous sentez que Terrebonne a changé au fil des ans? La composition démographique, par exemple, a changé, donc que ça a pu vous nuire dans l'élection d'hier?
Oui, comme dans celle de la dernière élection. Dans une série de mandats minoritaires, il est très difficile pour une formation politique comme le Bloc québécois d'aller interpeller un électorat qui ne nous est pas acquis d'emblée. On a le devoir d'aller parler aux gens qui sont issus de l'immigration. Puis c'est pas vrai que parce qu'un immigrant est francophone, il va voter pour le Bloc, là.
Il y a plus de 30 ans, Emmanuel, Jacques Parizeau parlait de l'argent et du vote technique. C'est revenu à l'avant-plan avec l'élection à Terrebonne. Est-ce que c'est signe d'une défaite du mouvement souverainiste qui n'a pas été capable en 30 ans d'intéresser le pays du Québec aux personnes immigrantes?
Non, je suis pas prête à aller là. Je pense que la réalité, c'est que le mouvement souverainiste a essayé de le faire beaucoup. La preuve, c'est que le Bloc québécois sous Gilles Duceppe était extrêmement dans cette mouvance-là. Je me rappelle des campagnes de publicité, « Mon cœur québécois »,« Nous sommes tous québécois », etc. Viviane Barbeau, c'est la présidente du parti. Elle avait été élue, elle était d'origine haïtienne dans l'ancien comté de Papineau. Donc, je pense que moi, mon analyse là-dessus a toujours été qu'une partie substantielle des immigrants arrive, ils n'immigrent pas au Québec au sein de la nation québécoise, ces gens-là. Ils immigrent au Canada. Ils viennent, tu sais, je veux dire, ils viennent dans le pays du Canada, au Québec, où on parle français, puis c'est génial, mais leur appartenance première et leur projet de vie immigrante est au Canada. Et donc, réussir à changer ça, je pense que c'est très difficile. Mais je pense que ce qui est arrivé aussi, c'est que le mouvement souverainiste a beaucoup... tu sais, il y a eu l'opprobre de cette parole du vote ethnique qui a comme empêché aussi le mouvement souverainiste d'aborder ces enjeux-là sur l'espace public depuis 1995, parce qu'on voulait se libérer de la tare d'être accusé d'être raciste, etc. Puis, objectivement, ça a pris M. Legault qui a ramené ces enjeux identitaires-là sous l'angle de la langue. Maintenant, on est rendu dans les valeurs pour repermettre ce discours-là d'avoir lieu. Et donc, maintenant qu'on recommence à discuter et à réfléchir sur la place publique, dans les faits, au sein du mouvement souverainiste, on réfléchit à ça, là. On s'inquiète de ça. Puis, ce que M. Blanchette a fait, je crois, dans mon analyse, c'est qu'il a mis sur la place publique une fracture qui existe déjà au sein du mouvement souverainiste. Mm-hmm. Ruba Gazal, elle est souverainiste.
En effet.
Et elle est du parti qu'on ne peut pas faire l'immigration sans le vote des immigrants. T'sais? Puis il y a toute une autre partie de l'aile souverainiste. Puis je pense que celui qui l'incarne le mieux, puis je vais le dire parce qu'il s'en affiche, il écrit des chroniques là-dessus dans le Journal de Montréal, qui est plus l'aile de Mathieu Bocoté, qui dit « On a essayé, ça n'a pas marché. » Pour réussir à faire l'indépendance, on ne peut que s'en remettre à la majorité historique. Ce qui est difficile, c'est qu'à partir du moment où M. Blanchette met ça en jeu, mais là, ça va forcer M. Saint-Pierre Plamondon à s'embarquer là-dedans.
Ouais.
Puis je pense pas mal certaine qu'il n'avait pas trop envie d'aller là.
C'est ça.
Parce que c'est délicat, c'est litigieux, etc.
Et François Blanchette, il a glissé une coupe de pleure de banane là, sur son chemin pour la prochaine semaine.
Mettons.
Emmanuel La Traverse, merci beaucoup, beaucoup pour ce premier caucus avec
très
nous.
Bien.
Je te souhaite un excellent week-end et on se reparle lundi. Salut.
Très bien, au revoir.
Emmanuel La Traverse qui va être avec nous pour les trois prochaines semaines. Je le rappelle, Antonine Iaccarini qui est en congé de maladie. Donc, c'est Emmanuel qui va prendre la place. Très intéressant comme caucus.
Elle va très bien en passant, Antonine.
Oui.
C'est juste une petite chirurgie.
Exactement.
Mais ça demande du repos. J'ai failli faire la blague. Je me suis abstenue. Ça a failli sortir parce que tu me fais tellement rire.
Vas-y donc.
C'est vrai que des fois, tu vas aller dénommer, mettons.
Oui, oui.
Fait que là, j'ai failli, pour pas qu'elle sente mal, dire « Vous êtes pas unique, madame La Traverse. »
Le pire, là, c'est que je me suis pratiqué ce matin parce que je ne sais pas pourquoi. Moi, Emmanuel, ça a toujours été la tendresse.
Mmh.
Je ne sais pas pourquoi, je me suis toujours trompé.
Tu as peut-être entendu le premier ministre l'appeler comme ça aussi.
Fait qu'à matin, là, je me pratiquais chez nous, je me disais « Oublie pas, c'est La Traverse. » Puis là, je me l'étais écrit.
Jeff, quel est mon nom?
La Traverse. Pascal Caron-Vézina, Pascal CV, c'est bon. Mais j'ai fait l'erreur, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la radio.
J'aurais dû dire, quel est ton nom?
Ouais, c'est ça. Ah, moi, c'est Jeff Fortin.
Puis celui à qui on parle dans pas long?
C'est Roger Ferland.
Le midi, on en jase. À Boulevard Saint.
Pascal, on va aller rejoindre un chroniqueur très apprécié de nos auditeurs, c'est-à-dire Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ. Mais avant, rappelle-nous cette nouvelle très importante au niveau judiciaire.
Oui, en fait, c'est un suivi même d'une nouvelle qui nous avait scandalisé. C'était la première fois qu'on était en contact avec autant de violence envers un enfant. On associe ça à une violence, difficilement descriptible. Dans le crime organisé, un ado de 14 ans qui avait été retrouvé tué à Frampton. On est en septembre 2024. Il s'appelle Mohamed Yanis Segouani. Ça a pris du temps avant qu'on ait l'information sur le jeune. Hein. On avait juste une idée que c'était finalement un jeune de 14 ans de Saint-Léonard de Montréal qui avait été repéré et trouvé mort sur le territoire du repère des Red Devils, qui est un des clubs écoles des Hells Angels. Là, il y a eu des rumeurs depuis, sauf qu'il n'y avait jamais eu d'arrestation concrète. Aujourd'hui, c'est fait. Deux hommes qui ont été arrêtés ce matin en lien avec cette mort-là. Il y en a un, on a son nom. C'est un jeune homme aussi de 24 ans. Dawson Cyr l'éveillé et qui a été arrêté dans le coin de Salaberry de Valleyfield. Pour l'autre, c'est 30 ans, c'est quand même deux jeunes,
ben oui.
Et qui a été arrêté directement à l'établissement de détention de Québec.
Donc, quelqu'un qui est déjà en détention, j'imagine, pour d'autres méfaits qu'il a commis, d'autres crimes. Alors, pour nous parler de cette bonne nouvelle, on a au bout du fil Roger Ferlin, qui est enquêteur au SPVQ. Roger, comment vas-tu?
Très, très bien. Bonjour à vous autres.
Merci pour ta disponibilité, Roger. Roger, bonne nouvelle, hein, parce que ça nous inquiète énormément, ce recrutement auprès d'adolescents pour le crime organisé. Alors, le fait qu'on en pince deux... Bien, comme tu dis régulièrement, Roger, ça risque de lancer le message aux autres qui le font.
Bien, vois-tu, ces derniers temps, on se dirait que c'est un peu plus calme. C'est un peu plus calme parce qu'il y en a arrêté beaucoup. Mais là, la deuxième étape, puis j'aime ton mot que tu as pris, recrutement, bien là, vois-tu, on comprend mieux. Puis le père s'est livré, en fait, a donné des informations. Parce que comme il est mineur, on n'aurait pas su grand-chose de lui. Maintenant, on en sait plus. C'était qui, ce petit gars-là, qui est mort dans l'auto? Bien, ce gars-là, c'était un super athlète, là. C'était un joueur de soccer. C'était un bon petit gars qui était dans l'équipe élite de son école. Fait que finalement, c'est un petit gars qui a du guts, du courage de faire plein d'affaires, qui s'entraîne. Mais qu'à un moment donné, un soir, l'influence, les amis t'amènent où? Ben viens ici, mon chum, tu vas devenir un king. Tu as l'opportunité de prendre une mitraillette puis te sacrifier pour la cause. Ben là, vois-tu, les gars qui ont orchestré ça, parce que c'est pas la plainte qui venait du bord des Hells Angels, mais les gars qui ont orchestré ça avec lui ont été arrêtés ce matin. Vraiment beau travail de la part des policiers.
Comment ça peut être aussi long? On parle de septembre 2024, même avant d'avoir de l'information. On comprend souvent, là, ils nous diront pas tout de suite, c'est un jeune homme de 14 ans, il savait que ça allait faire un effet commotion, etc. Mais pourquoi ça peut prendre autant de temps avant même d'arrêter des suspects?
Parce qu'il faut que tu reprennes le travail à l'inverse. Comme tu n'as pas de plaignant officiellement, tu n'as pas de gens qui te donnent l'information, là, il faut que tu partes de quelles sont les traces, un peu comme le petit pousset et les indices que ce gars-là a laissés. Alors là, ils ont dû retourner voir, quand ils ont eu l'identité de ce jeune-là, la famille. La famille, qui étaient les contacts? On peut savoir ses relevés téléphoniques. On peut savoir son relevé, son profil autour de lui, qu'est-ce qu'il faisait le soir comme activité, Internet et j'en pense. Et à partir de là, il y a un long travail, possiblement, de cyber-enquête qui se déroule, plus que juste du travail terrain. La majorité des gens autour de lui n'ont pas dû vouloir jaser beaucoup. Fait que tu peux pas dire que tu vas compter sur un témoin oculaire. Mais à partir de là, toutes les petites choses que tu découvres, qui a parlé à qui, comment, parce que lui, c'est pas par hasard qu'il s'est ramassé là, le petit gars, là. T'sais, il a sûrement dû avoir des échanges téléphoniques, des conversations, des textos. Tout ça, après ça, a été analysé, à prendre à la pièce. Pour ça, Pascal, il faut comprendre, c'est plus long. C'est pas le travail de base du patrouilleur. Après ça, c'est le travail même de l'enquêteur spécialisé qui va te faire ça. C'est souvent des supports techniques qu'on a. Faut que tu envoies des appareils, que tu saisisses ces appareils légalement, que tu mettes la main là-dessus. Fait que ça veut dire perquisition au départ, récupérer le matériel, puis après ça, expertiser le matériel que tu as, en faire une analyse, et après ça, tu es capable d'arrêter des gens comme ils viennent de faire ce matin.
Roger, qu'est-ce qu'on apprend d'une enquête comme ça pour permettre justement peut-être de prévenir ou de mettre la main au collet de d'autres recruteurs?
En fait, ce que moi je trouve le fun, c'est le modus operandi. Si j'étais encore policier d'école, je peux te garantir que, tristement, mais je m'en servirais pour dire aux jeunes, est-ce que c'est ça que vous voulez en ce moment? J'agis moi-même comme coach dans le sport avec certains jeunes de ces âges-là. Puis certains, des fois, se cherchent un peu. C'est l'âge 13, 14, 15 ans que tu as envie de devenir quelqu'un qui est hot à son école. Mais être hot, c'est quoi? Ben, ça demande du travail si tu veux être le hot dans les études. Ça demande du travail si tu veux être le hot dans les sports. Ben, il y a une façon que tu veux devenir un guerrier tout de suite. Tu peux devenir le plus violent de ton école, puis ça va se savoir assez vite aussi si tu t'embarques dans certains groupes. Lui était déjà associé à certains groupes. Il était connu, du moins, pour fraterniser avec un noyau qui était moins agréable à Montréal. T'sais, il était reconnu déjà par les policiers de Montréal de dire « ce jeune-là fraye avec eux ». Alors, c'est pour ça. Fait que ce que moi, je pense qui est important en ce moment, c'est d'avoir en tête, là, on comprend le modus operandi, le recrutement. Ces jeunes-là ne sont pas à l'écoute de la radio aujourd'hui, généralement, ne sont pas à l'écoute de la télévision et des journaux, mais prennent beaucoup de modèles autour d'eux qui sont des influenceurs ou des gens de ce type-là. Là, ça nous permet maintenant de travailler. Ça me fait penser aussi à autre chose, à la question que tu as posée, Pascal. Les gars, quand ils se parlent entre eux, là, c'est possiblement pas son vrai nom qu'il a utilisé. Il a utilisé un pseudonyme. Batman 21, puis Albator 12.
Ah, ouais, hein.
Il faut qu'après ça, tu retraces ces gars-là, dire qui est qui, que tu le prouves hors de tout doute, puis après ça, tu peux aller l'arrêter puis mettre la main sur son appareil à lui aussi.
Comme dans le temps avec Mom Boucher, là, tout le monde avait un genre de surnom. Fait que là, quand il y en a un qui essayait de dénoncer quelque chose, il parlait d'un surnom, les policiers ne savaient pas c'était quel le vrai nom. On est encore plus expertisé maintenant là-dedans.
Vraiment, c'est encore plus compliqué que ça l'était, parce que c'est pas juste de dire que le surnom est un tel. Tu peux changer de surnom tous les jours, si tu veux, mais ça vient du même application ou ça vient du même phénomène. Fait que c'est pour ça, tu sais, la technologie a été full utile pour plein de choses. Là. WhatsApp et toutes les autres communications cryptées qu'on peut avoir, là. Il y a des communications que tu l'as fait, puis dans les secondes qui suivent après ça, elle est disparue en plus. Elle laisse pas de trace. Mais encore là, ça laisse une partie de trace, mais tout ça est long à enquêter. Aussi complexe, mais aussi précis qu'un ADN.
Ouais, c'est fou un peu de lire ça, Jeff, Roger. Jeff, t'as un parcours, t'as une vie, j'en ai une, Roger aussi. On est pas mal de trois générations et de trois compétences différentes. Le fait que des jeunes deviennent cool en étant violents, en mettant un pied dans le crime organisé, en mettant... Tu sais, auparavant, c'est des jeunes qui avaient peut-être pas eu un encadrement quand, ben malheureusement, ils sont nés puis la famille était pas super adéquate et quoi que ce soit. Moi, à mon temps, c'était pas cool être violent. C'était pas cool intégrer un gang. Y a-t-il quelque chose que j'ai pas compris dans ce changement de paradigme-là? Est-ce que vous, c'était différent, les gars?
Tu réponds ça en premier, Jeff?
Ah, ben moi, en Basse-Ville de Québec, tu peux faire ta place en étant violent, Roger.
Oui, c'était ça.
Ben, vois-tu? Puis, tu sais, c'est bête, mais on veut tout être normal à un moment donné. Souvent, après, ce que je te dirais, Pascal, c'est le milieu qui va t'auto-influencer par après. Tu essaieras de dire à une jeune fille aujourd'hui qu'être normal, c'est avoir un petit surplus de poids ou avoir les cheveux de telle couleur ou telle affaire. Tu vas voir très vite, tu vas te répondre, non, c'est pas ça. Les mannequins et les influenceuses qu'on voit sont toutes hyper cool parce qu'ils sont comme ça. C'est pareil au niveau du sport, c'est pareil au niveau de plein d'autres phénomènes. Fait que finalement, tu t'associes avec des gens. Si tu laisses un milieu se dégrader très vite, ce qui va prendre le dessus, c'est... tes pseudo-influenceurs. Puis, des fois, ben effectivement, tes gars qui sont violents deviennent tes modèles. Tu sais, les gars qu'on aime bien dans le sport, souvent, ton gars au foot, c'est ton gars qui est capable de ramasser tout le monde sur le terrain parce qu'il est vite, puis il est audacieux. Mais c'est sur le terrain qu'il faut que tu fasses ça. Tu veux pas qu'il fasse ça dans la cour d'école. Fait qu'à la cour d'école, tu lui dis, comporte-toi de façon civilisée. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un après ça qui intervienne avec lui, puis qui empêche dès qu'il y aura la première altercation. Tu sais, c'est tout ce phénomène-là, moi, je pense, d'influence, d'association, qu'en ce moment, je pense qu'on a laissé nos jeunes s'encadrer et s'éduquer par les médias sociaux. Ben, on a cette conséquence-là en ce moment. Je pense qu'il faut qu'on leur amène des vrais modèles terrain. Il va falloir qu'on leur amène des vrais signaux, mais aussi des vraies conséquences quand ils prennent l'autre chemin. Puis ça, ben, ça prend des policiers sur leur terrain, des éducateurs, des directeurs d'école et des parents qui acceptent de prendre leurs responsabilités.
Oui, et parlant de vraies conséquences, il y a le système judiciaire aussi, puis on va souhaiter que Dawson Cyr l'éveillé, là, on apprend ça dans le Journal de Québec, qui a conduit les deux adolescents jusqu'à Frampton, paye une lourde peine. Mais ça me fait penser, Roger, il y a un autre individu qui a été justement arrêté, accusé, on ne connaît pas encore son nom, mais qui est présentement au centre de détention de Québec. Ça se peut-tu que notre laxisme dans les prisons soit responsable de cet événement-là, c'est-à-dire que la commande soit venue de l'intérieur des murs?
Ah, 100%, là, c'est très, très, très possible, parce que on sait que les gars de Harvard Power, par exemple, qui étaient en lien avec cette organisation-là, qui est allée faire la fusillade au local de Frampton, ben, les Harvard Power, les gars contrôlaient ça depuis Donnacona, par exemple.
Ah, pas de sens.
C'était pas. Fait que c'est pour ça qu'il y a une partie qu'il faut comprendre. On dit, ah, ils sont rendus en prison, on ferme les yeux, puis on vient de le sortir hors de ma vue, là, tu sais. Non, après ça, ça prend des sentences exemplaires, ça prend après ça un encadrement exemplaire, puis ça va prendre après ça un suivi, tu sais. Puis c'est facile de couper à des places comme ça parce que c'est des places rapidement où ça ne rapporte pas au départ. Ça ramène pas de sous à l'État, ça va juste coûter des sous à l'État. Mais si on croit vraiment à la réhabilitation, faut le faire. Puis si on croit vraiment que les gens, faut leur donner des conséquences, ben là, tu l'as bien dit, ça va prendre des sentences adéquates en ce moment pour tous ces gens-là. Là, c'est le temps de faire un exemple avec ces gars-là. Vous avez osé faire ça. Voici maintenant qu'est-ce qui arrive pour les autorisateurs ou ceux qui commandent ces jobs-là. C'est pour ça que les lois du gangstérisme sont apparues aussi pour nous autres au niveau du crime organisé motard. Les autorisateurs n'aiment pas ça en ce moment qu'on mette le mot gangstérisme. Je pense que là, voyez-vous, dans les circonstances, même s'il y en a un qui est mort, le petit de 14 ans il est mort, il était trois, au moins, mm-hmm. parfait. Le phénomène de gangstérisme peut être là. Je suis convaincu que les policiers y pensent en ce moment d'accuser ces gars-là comme autorisateurs. Les plus vieux, vous avez orchestré ça. L'autre, même s'il me dit, je suis en prison, regarde, je te pourrais. Ben non, j'ai envie de dire, ta gueule, là. Non, on va ça. Aller. T'es là, là.
On va te laisser en de plus longtemps.
Exactement.
Merci de la fermer gentiment.
Exact, exact.
Roger Ferland, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cet événement tragique qui s'est produit à Frampton en septembre 2024. Et on se reparle prochainement.
Certainement. Bonne journée à vous.
Salut, Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ. On revenait sur ces arrestations de Dawson Cyr Léveillé et d'un détenu présentement au centre de détention de Québec qui vont être formellement accusés là, dans le meurtre du jeune homme de 14 ans, cet ado, qui était parti de Saint-Léonard à Montréal jusqu'à Frampton en Beauce pour attaquer un repère des Hells Angels.
Tu parles des commandes des fois en prison, là, des choses comme ça. C'était tellement une question pertinente parce que récemment, quand je parlais à l'agent carcéral, que je t'ai dit, bon, j'ai pas pu prendre de clip. Pis, mm-hmm. C'est correct qu'ils font attention à leur emploi, ben, je le comprends.
Ça fait normal.
Mais ça aussi, c'est un problème parce que le devoir de discrétion fait en sorte qu'on peut pas les aider à faire de la pression pour que leur travail s'améliore.
Exactement.
Mais puis on a nommé la gang des Arab Power. Il y en a un là-dedans qui m'a nommé que lui, il est extrêmement complexe comme individu dans les murs de la prison parce qu'il mène tout le monde. Littéralement. T'imagines. C'en est un qui fait peur à tout le monde, c'en est un qui fait les commandes à tout le monde. Il travaille à l'intérieur des murs de prison. C'est il n'y a ça. rien qui l'arrête. Et son gang prend de l'expansion et même est un gang très violent.
Et voilà, et quand est-ce qu'on va sécuriser nos prisons sur le sens du monde? On va le souhaiter très, 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 très rapidement. Courte pause à Boulevard 101. Par la suite, on va parler de politique municipale avec Alicia Despins. Elle pense quoi de ce vidéo-là de Stéphane Lachance qui blâme le maire Marchand d'avoir invité Christine Fréchette avant qu'elle soit assermentée? Moi, ça me semble l'opposition pourrait s'occuper d'autres choses. Puis on va faire le tour de l'actualité également. Sur les ondes de Boulevard 101 à Boulevard, à l'émission On en jase.
Fromagerie Victoria. Frites croustillantes, fromage en grains frais, saucisses, jambon, oignons marinés. Le tout garni d'une touche de sirop d'érable qui goûte le Québec. L'érablière, une poutine parfaite pour se sucrer le bec. Fromagerie Victoria, familiale depuis 75 ans.
Voici le portrait. Tu veux vendre ta voiture? T'en veux une neuve? Et tu veux faire ça simple. Seul l'est avec Kia Beauport. On fait partie du portrait. Rejoins la famille. Évalue ton auto au kiabeauport.com.
Chez Canampon, on fait pas juste travailler le métal. On bâtit le Canada. D'ici et enraciné depuis des décennies, l'entreprise réalise des structures majeures qui relient les communautés d'un bout à l'autre du pays. De la conception à l'installation, chaque pièce passe entre les mains de nos passionnés. Joignez-vous à notre équipe. On cherche des soudeurs, des assembleurs, des mécaniciens et des ingénieurs. Formation, sécurité, esprit d'équipe, projet concret. Canampon vous attend. Postulez maintenant sur canamembauche.com pour une carrière solide.
En mai, vous recevrez votre lettre de recensement par la poste. Les renseignements que vous fournissez aident à planifier des services dans votre collectivité qui soutiennent l'emploi, le transport, l'éducation, les soins de santé et plus. C'est facile à remplir et confidentiel. Pour en savoir plus, consultez le recensement.gc.ca. Votre recensement, votre collectivité, notre avenir. Un message du gouvernement du Canada.
Desjardins Volkswagen, tout près de Le Bourgneuf, Lac-Beauport et Val-Bélair. Jusqu'au 30 avril, faites un essai routier et courez la chance de gagner 750 $ en essence. 0 % jusqu'à 60 mois sur le Taos 2026 et plus de 75 Tiguan disponibles pour livraison rapide. DesjardinsVolkswagen.ca.
Ce printemps chez Viva, planifiez votre consultation sans frais en épilation définitive au laser Triton et recevez une carte cadeau de 125 $. Visitez cliniqueviva.com.
Jusqu'à 14 heures. On en jase à Boulevard 102. Jeff Fortin et Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité.
Boulevard 102.1.
Oh que ça bouge! Ça bouge à Québec, ça bouge dans la province. C'est une belle journée d'actualité. En passant, demain, 12h40, manquez pas ça, le maire de Saint-Augustin, Sylvain Junot, va venir s'asseoir avec nous. Et il a renvoyé une petite lettre ouverte. Il est pas content comment qu'on gère l'asphalte.
Il voulait Pino pas parler à Bruno Marchand, il était de retour.
Oui, il n'est pas content.
L'affaire, c'est que sur son territoire, pour y être un peu plus maintenant, ben, y en a du nid de poule, là.
Ben, c'est ça. Fait qu'on va y parler, puis là, je commence à penser que il y a des aspirations provinciales, ce gars-là, là.
Sais-tu quoi? Au nombre de prises de parole, peut-être que sa carrière de politique n'est pas terminée.
C'est ça. Fait qu'il m'a dit, quand j'y ai parlé tantôt, il m'a dit « Jeff, je peux faire ça au téléphone aujourd'hui, mais je peux venir te voir en studio demain.
Wow. » Oui, on va vous prendre en studio, monsieur.
Conversation studio demain, monsieur Junot, midi 40. On va être le fun, on va jaser de route à payage.
Il
a fait la manchette.
Rêver, par exemple.
Ben c'est ça. Elle sait pas à quoi qu'il joue, le maire Junot.
Gars, il pose la question demain.
On va y poser la question avec plaisir. À la météo, simplement vous dire que présentement, c'est 8 degrés avec averse de pluie ou brume. Demain, ce sera 14 degrés, mais encore une fois, avec de la pluie. Cependant, rassurez-vous, samedi, c'est 16 degrés, alternance de soleil et nuages. La pluie revient dimanche, fait que la journée de samedi va être impeccable. Vous allez pouvoir travailler dehors, la neige va avoir fondu, la vie va être très belle. En attendant de parler avec Alicia Despins-Pascal. Il y a énormément de, je vais le dire comme ça, de nouvelles qui sont apparues dans l'actualité.
Ouais.
Fais-nous un résumé.
Grosse dernières heures. D'abord, bon, la vie est belle pour Christine Fréchette aussi, maintenant première ministre après la succession de François Legault et la course à la chefferie contre Bernard Dréville, course à la chefferie contre au sein de la CAQ, pardon. Et elle s'en va rencontrer Mark Carney demain à Ottawa, après le maire de Québec, qui a été la première partie de Mark Carney quand même. Elle va se diriger à Ottawa pour continuer là, son travail de « on serre la pince, on travaillera ensemble pour les prochains mois, peu importe si on va être capable de bouger des gros dossiers ou non. » On va suivre ça. En Beauce, on apprenait pour ce qui s'est passé en 2024, septembre 2024, l'ado de 14 ans qui avait été tué par balle, qu'on a arrêté deux personnes, deux présumés recruteurs de Mohamed Yanis Segouani. Et c'est la SQ qui a fait ça ce matin. Donc, ça avait soulevé l'indignation aussi à l'Assemblée nationale et aussi au sein de la population. Dossier qui revient dans les nouvelles, c'est deux hommes, 24-30 ans. Et il y en a un qui est au centre de détention au moment où l'on se parle. Et il y en a un autre où on a eu un peu plus d'informations, 24 ans. C'est vraiment des jeunes assez dans la fleur de l'âge. Et ça aussi, ça ajoute au dossier. Ce qu'on apprenait, c'est que Dawson Cyr l'éveillé fait partie de ces suspects arrêtés dans le coin de Salaberry de Valleyfield. Et le corps, je vous rappelle, avait été retrouvé sur le repère des Red Devils. Donc, on lit ça au crime organisé, bien sûr. Là, c'est club-école des Hells Angels. Dans les nouvelles, le BEI va enquêter sur la mort d'un homme à Québec. On avait intervention cette semaine et c'était mercredi par les policiers de Québec autour de 13h50. On est allé avec un appel du 911. Et on parlait d'une personne qui était munie d'une arme à feu. On s'est déplacé, individu de 70 ans. On disait qu'il était désorganisé sur la rue Albert-Trudel à Loretteville. Et on a procédé justement à cette intervention-là. On a tenté d'entrer en contact avec la personne à plusieurs reprises. La personne serait alors sortie du domicile avec l'arme à feu. Il y a un policier qui a fait feu en direction de la personne. Elle a été blessée et on a confirmé son décès à l'hôpital par la suite. C'est pourquoi on est dans une enquête avec le BEI. On veut toujours voir quand il y a utilisation d'armes à feu si c'est passé quelque chose de non conforme à la profession des policiers. 48e jour de la guerre au Moyen-Orient, le Liban, Israël commence une trêve de 17 heures ce soir et les négociations se poursuivent entre l'Iran et les États-Unis au moment où l'on se parle. Sinon, tantôt, on va aborder avec vous un dossier important, un dossier sur la transition dans le dossier santé numérique. Alors, tout ce qui est mise en chantier de ce projet pilote encore à partir du 9 mai prochain. On a découvert que finalement, ça se peut que ce soit pas la bonne date, puis on a découvert qu'il y a plein de journalistes qui n'arrivent pas à avoir des réponses comme nous quand on se butait à des murs. Je vais entendre Sébastien Houle qui travaille pour les Cobles l'information. On en parle dans un instant.
Bien, l'impression qu'on a quand on parle à des professionnels, des médecins, qui ont tous reçu ou qui sont en train de recevoir une formation, qu'on me dit, là, très intensive, 12-13 heures, mais on me dit c'est très, très dense. C'est beaucoup d'informations. Puis le mot qui revient souvent, c'est contre-intuitif.
Alors, ce serait pour pas déployer quelque chose qui n'est pas prêt et dans lequel on va casser beaucoup plus de peau qu'en recoller.
Jamais facile, les grands projets au Québec, que ce soit informatique ou en infrastructure. Puis tiens, on va aller rejoindre notre chroniqueuse politique municipale, Alicia Despins, pour parler de quoi? Du tramway, entre autres.
Mais oui.
Alicia, comment vas-tu?
Ça va bien, toi?
Ça va super bien. Alicia, je te fais entendre Jean-Philippe Pelletier, qui est un gestionnaire au niveau de la Caisse de dépôt et de placement, section infrastructure, concernant le timing du début des travaux pour le tramway. Parce que là, on a appris hier en conférence de presse que finalement, René Lévesque, on va le fermer plus à la fin de l'été, vers le mois d'août. Mais Colin, les autobus sont détournés depuis le 21 mars. Alors Mathias Turcotte, notre journaliste sur le terrain, a demandé... Comment ça, on a fait ça autant à l'avance?
Bien, on vient à un point, je répète, le tronçon René Lévesque est sur le cheminement critique du projet, qui doit pouvoir travailler et commencer. Un jour, il faut y aller, il va falloir fermer. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que tout le réseau de transition, comme Dan l'expliquait tantôt, a été mis en place déjà pour s'assurer que les gens prennent les bonnes habitudes, qu'ils connaissent leurs repères pour la mobilité et le déplacement en ville. Donc, c'est vraiment l'objectif. Et on pense que, justement, on est aussi bien de le faire le plus avant la rentrée, de façon à ce que les habitudes des gens soient déjà pleinement inscrites et mises en place.
Bon, avant la rentrée, durant l'été, après le festival d'été, je me dis, ça, ça a de l'allure. Tu planifies ton déplacement pour la rentrée scolaire d'automne parce que c'est toujours le bordel sur nos routes à Québec pendant au moins un gros mois. Mais là, pendant une session, le 21 mars, tu changes les habitudes de tout le monde pour quelque chose qui va arriver à la fin du mois d'août. Ça me laisse présager qu'il y a eu un manque de communication entre CDPQ Infra et la ville. Je suis trop dans le complotisme.
Ben non, tu sais, je pense qu'avec les arguments qu'il t'a donné, aux journalistes, clairement, il y a peut-être quelque chose qui a été réajusté, là, à quelque part, là, dans ce plan-là. Après ça, moi, je ne peux pas me plaindre parce que je vais toujours préférer que le RTC, que CDPQ Infra, dans tout ce grand dossier-là, soit plus à l'avance qu'en retard.
Bien sûr!
Là, dans ce cas-ci, on est pas mal à l'avance, bon, mais en même temps, c'est vrai que pour changer les habitudes des gens, éviter les surprises, peut-être de faire ça aussi de manière progressive, transitoire. Puis là, on a changé quand même les parcours d'autobus, etc. René Lévesque, pour l'instant, n'est pas encore en gros travaux, mais ça s'en vient. Fait qu'on va y aller étape par étape plutôt que d'avoir tout ça, paf, tout en même temps. Moi, je vois pas ça d'un mauvais œil. Au contraire, je pense qu'on vient éviter, on essaie de mitiguer un petit peu là, tout ça, là, puis de rendre ça un petit peu plus vivable pour les gens. Le festival d'été qui est épargné, il fallait. Là,
oh, gros ça point positif.
Un scandale autrement de faire ça à si court avis, là, de dire là, qu'il allait avoir des travaux. Là. Mais je m'attends quand même à ce que... À l'avenir, on ait des calendriers. Parce qu'on n'est pas sorti du bois, là, on en a pour des années. Mais je m'attends à ce qu'on ait des calendriers plus clairs et plus à l'avance là, pour les prochaines phases. Mais, tu sais, ces gens-là, à part une poignée de personnes, c'est le plus gros projet sur lequel ils n'ont jamais travaillé. Fait qu'il faut s'attendre à ça, une certaine période là, où ils apprennent un peu là, comment gérer tout ça. Parce que c'est pas simple.
Ah non, en effet, puis ils l'ont dit hier en conférence de presse que cette année ne serait pas une des pires années dans le processus, justement. Donc, en effet, ça va prendre transparence, ça va prendre la prévisibilité et pour les déplacements des citoyens et pour les commerçants là, qui sont sur l'axe René Lévesque et dans le quartier avoisinant. Là.
Dans tout ça, là, j'aimerais ça repartir le débat sur la question du télétravail des employés, des fonctionnaires sur la colline parlementaire. René Lévesque en travaux, je pense qu'on devrait se faire un objectif collectif là, de diminuer le transit.
Et merde. Parce que ce point-là pourrait tellement leur donner une force incroyable dans la discussion de fond qui était hey, « Écoutez, on veut juste vous ramener, mais il est important le point, si c'est pas accessible en ce moment, c'est pas la même chose. » On apprenait aujourd'hui d'autres choses à ce sujet-là, puis Jeff et moi, on en parlait. Il y a des fonctionnaires qui ont décidé de réduire leurs heures. C'est quasiment fâchant. On se dit « Colin, si c'est si facile que ça, réduire les heures de travail pour les fonctionnaires, là, est-ce que c'était vraiment des heures pleines là, qu'ils faisaient? » Mais je comprends ton point, Alicia. C'est juste que je pense qu'on est sensible aux réclamations en ce qui concerne le télétravail.
Alicia, justement, tu me fais une belle passe sur la palette parce que je veux te parler de Christine Fréchette et de sa visite à l'Hôtel de Ville hier. On écoute comment elle est arrivée à l'Hôtel de Ville.
Je tenais à venir très rapidement vous rencontrer, là, puis vous voyez, c'est une de mes premières sorties que je fais avec vous.
On l'apprécie énormément.
Ça reflète vraiment l'importance que j'accorde à la capitale nationale. Ouais. Capitale nationale que j'ai habitée plusieurs années, d'ailleurs.
Vous me l'aviez dit, vous l'honorez, alors merci.
J'ai pris soin de faire
ben
un
oui,
petit
clin d'œil. Ben oui, quand même, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques.
Mon veston beige caramel. Et les chaussures à la Bruno Marchand. Ouais.
Wow. Les espadrilles de la première ministre pour rencontrer le maire en espadrille. Bref, ça a été une vraie histoire d'amour hier entre Bruno Marchand et Christine Fréchette. Et ça m'amène justement à revenir sur ton point de télétravail. Comme on savait que c'était pas une histoire d'amour entre Bruno Marchand et François Legault, ça se pourrait-tu que la première ministre donne un petit coup de main à Bruno Marchand puis il dit « Sais-tu quoi? Je vais mandater ma personne responsable au Conseil du Trésor pour dire « Hey, on remet tout ce beau monde-là en télétravail. »
Ben, et vice-versa, tu sais, c'est super. Moi, je pense que c'est une victoire pour Bruno Marchand d'avoir eu la première ministre vraiment aussi rapidement. Tu sais, c'est symbolique, cette première rencontre-là, mais pas juste parce que ça vient établir les priorités pour les quelques prochains mois de part et d'autre. Puis venir repositionner surtout cette relation-là de manière plus collaborative. On parlait d'être des alliés. Fait que c'est une bonne chose pour Québec. Je pense que ça peut aussi être une bonne chose pour Christine Fréchette, pour la CAQ, parce que elle le voit. Moi, je pense que je suis capable de voir ça aussi, une voie de passage, si on est très optimiste là, pour la CAQ, une voie de passage à Québec à l'automne. Donc, c'est stratégique de venir mettre en valeur les ambitions pour la région. Puis le maire, lui, est juste gagnant là-dedans d'essayer d'aller chercher le plus possible dans les prochains mois, mais aussi d'engager Christine Fréchette dans dans des prises de position, mm-hmm, dans des projets, dans des promesses électorales pour l'automne, parce qu'on sait qu'après ça, ben, il y a un mouvement en train, puis les autres partis n'auront pas le choix de promettre essentiellement les mêmes choses.
Maintenant, est-ce que le maire joue un jeu dangereux lorsqu'il dit « je vais m'impliquer dans la prochaine campagne électorale provinciale »? S'impliquer, ça veut dire prendre position pour des idées. Ça veut dire, à un moment donné, même si tu le dis pas ouvertement, favoriser un parti par rapport à un autre. Il me semble que le maire, faudrait qu'il reste le plus possible apolitique. Je me trompe-tu?
Bien, ça dépend. Hein? Tu sais, ça peut être un piège, effectivement. François Legault l'a fait à ses dépens là, quand il a pris campagne, il a pris position pour le Parti conservateur au Canada. Puis bon, après ça, c'est de la politique. C'est de la politique. Puis c'est, je pense que ça fait partie de la game, ultimement. Moi, je considère que Bruno Marchand, il est autant en campagne électorale à l'automne dans cette élection provinciale-là que tous les députés, tous les partis politiques provinciaux, dans le sens que c'est lui qui doit travailler pour s'assurer que les partis politiques s'engagent pour Québec, qu'ils puissent faire des gains après ça, puis de s'assurer de la meilleure collaboration possible. Évidemment, ben là, on pense au gros projet, le soutien entier au tramway, qui a réussi à aller chercher verbalement de Christine Fréchette, qui a accepté de mettre de la pression sur Ottawa pour le financement. Ça, c'est des gros gains, là. C'est un allié de taille qui est allé chercher. Fait que moi, je pense que si il sent le besoin, s'il voit qu'il y a un gain, que c'est stratégique de s'impliquer plus qu'il ne le ferait d'habitude dans cette élection-là, mm-hmm, je pense que c'est la bonne chose à faire.
Moi, non, je suis d'accord avec toi. Il va tenter de maximiser le coup de circuit qu'il a frappé hier avec la première ministre Christine Fréchette, en effet. Maintenant, parlons en terminant de l'opposition officielle, c'est-à-dire Respect citoyen, de son chef Stéphane Lachance. Je vous fais entendre la vidéo qu'on a publiée hier sur le réseau social de Respect citoyen.
Tout nouveau premier ministre du Québec, le plus tôt possible, après son assermentation, est reçu à l'Hôtel de Ville de la capitale pour être fait maire ou mairesse honoraire. Alors, la cérémonie d'investiture de Christine Fréchette à titre de mairesse honoraire aura lieu à 10h45 ce matin à l'Hôtel de Ville de Québec, avant son assermentation officielle à l'Assemblée nationale. Alors écoutez, c'est dans la charte de la Ville de Québec. Ça peut pour certains paraître anodin, mais encore une fois, ça démontre que l'administration Marchand veut toujours aller trop vite, au même titre que pour les arbres. Alors on aurait dû attendre l'assermentation de la nouvelle première ministre. On le fait avant son assermentation. C'est un petit peu représentatif de comment on fonctionne à l'Hôtel de Ville avec l'administration Marchand.
Ouf! Je sais pas quoi dire à part que je suis découragé. C'était une conférence de presse hier de CDPQ Infra sur les travaux du tramway. Une conférence de presse que citoyens, commerçants, médias attendaient depuis des semaines, voire des mois. Puis notre opposition officielle a décidé de frapper sur un détail du fait que Christine Fréchette s'est présenté à l'hôtel de ville avant d'être assermenté comme première ministre. Ça fait pas sérieux, ça n'a pas de sens.
C'est des liens avec la coupe d'armes qui sont complètement tirés par les cheveux. On dirait presque une parodie, là. Il y a de quoi de spécial.
Ben, est-ce que c'était Jean-René Dufort caché dans Stéphane Lachance pour faire cette vidéo-là? Pour de vrai, Infoman reprend ça, puis ils n'ont même pas besoin de changer quelque chose.
Ça, puis cette semaine-là, on a eu droit à ça, puis on a eu droit à la CAQ, la chorale de la CAQ, là, la chanson pour François Legault. Là, c'était mes deux perles de la semaine. Là, je sais pas laquelle gagne la palme, mais c'est extraordinaire tout ça. On est chanceux, pareil, de pouvoir s'offrir ça.
Mais t'en penses quoi, toi, de ça? Parce que, tu sais, on dirait qu'on entend parler de cet enjeu-là par Éric Duhaime, par l'opposition ici à Québec, avec des amalgames un peu douteux. Mais il y en a qui s'inquiètent pour vrai, puis que foncièrement, c'est un problème là, pour eux si le projet de tramway n'est pas concrétisé encore, mais qu'on va de l'avant avec cette coupe-là.
Ben oui, puis c'est la job des personnes qui sont responsables, justement, de continuer de mettre la pression. Je pense que Bruno Marchand, je l'ai dit, bon coup avec Christine Fréchette qui s'enligne là-dedans. Je veux quand même souligner le fait que le bureau de projet a proposé aux citoyens la semaine dernière des portes ouvertes pour poser leurs questions, pour en apprendre plus. Il y a des centaines de personnes qui se sont déplacées. Fait que pour moi, c'est important de conserver ce genre d'activité-là, de les multiplier. Même à travers les travaux, puis quand le projet va être plus avancé, même quand on va avoir l'impression collectivement qu'il n'y a plus de recul possible sur ce projet-là, parce que c'est un gros projet, puis c'est important que tout le monde puisse savoir à quoi s'attendre. Ben, maintenant, sur Christine Fréchette, mairesse honoraire, les modalités, on s'entend que tout ça, c'est du protocole, là, c'est une tradition, il ne faut pas...
Exactement.
En chargé dans les flancs du tapis, je pense que c'est une opportunité manquée de l'opposition officielle. Ils démontrent de plus en plus qu'ils sont unidimensionnels, qu'ils ont juste un enjeu en tête puis qu'ils ne sont pas capables là, de jouer là, sur d'autres plans.
Je terminerai là-dessus. Là, c'est un petit groupe de militants qui est devenu politicien, mais qui n'a pas pantoute les skills pour l'être.
Oui. Puis, ils sont pas supposés de manquer de contenu à la Ville de Québec. C'est vraiment l'impression qu'ils donnent en ce moment.
Non, puis rappelle-moi leur budget de recherche.
On était-tu à 1 million, je
ouais,
pense?
Ouais, 1,3 million en budget de recherche. Ça pourrait être mieux comme ceci, Alicia. Je vais quand même te permettre de l'entendre.
Un jour nouveau se lève. À mieux autre pareil, mais tu sais.
Alors, pauvre François Legault, méritait pas ça après 28 ans de service public puis 8 ans comme premier ministre.
Il a dû aimer ça, mais pas en public.
Alicia Desfins, c'est toujours un plaisir de te parler. On se parle la semaine prochaine. Salut.
Bye.
Salut. Oh, attends, pour finir, Pascal.
Non. Moi, ça me crée un vrai malaise. Je suis mal parce qu'ils s'amusent, tu sais, ils sont heureux, puis moi, j'étais en train de vivre un inconfort.
Exactement. On va être meilleurs dans quelques instants parce que Rémi Villemure vient nous voir pour sa chronique.
Oui, c'est pas à cause de la toune de Max aujourd'hui sur les Canadiens qu'on va être meilleurs.
Non, la toune de Max ressemblait à ça. Ceux qui l'ont manqué, blvd.fm, dans le pit stop ce matin. Ils l'ont fait jouer dans le point de Max. Nous autres, on va se garder une gêne, Pascal, c'est vrai.
C'est qu'on est tellement bookés, là.
Ben, c'est
on
n'a
pas le temps.
Là, on a Rémi, on a notre dossier santé numérique.
On verra dimanche.
Oui, c'est vrai. Dimanche. Bonne idée, ça.
On n'est pas en onde.
Chut, fallait pas le dire. 13h15 minutes exactement, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, l'émission en jazz. 418-971-101 pour interagir avec nous. BLVD.fm pour nous écouter via la web radio et réécouter nos meilleurs moments. BLVD 101, c'est notre application sur App Store et Google Play Store. Vous pouvez venir nous écouter également et abonnez-vous à notre page YouTube. Il y a du contenu exclusif. Au 418-971-101, Pascal, je pensais vraiment pas partir le débat quand j'ai refait jouer la chanson de la CAQ entre quelle est la meilleure chanson, celle de Max ou celle de la CAQ. Puis malheureusement, Max est en train de perdre.
T'es en train de perdre contre celle de la CAQ.
Celle de la CAQ.
Hey, moi, je dirais pas là. Je pense que c'est...
Il y a seulement un auditeur...
C'est pire, celle de la CAQ.
Il y a seulement un auditeur qui nous dit « Vous n'êtes pas gentil de comparer la chanson amateur de la CAQ avec celle professionnelle de Max. »
Hey, ça, c'est drôle. Ça, c'est... Ça, par contre, c'est drôle.
Mais la majorité...
Professionnelle
des...
de Max.
La majorité des auditeurs sont comme Jérôme. Ils disent finalement, la chanson de la CAQ est meilleure que celle de Max.
Mais pour vrai, je te l'ai dit, moi, c'est pas le genre de choses qui me fait rire dans la vie. Puis ce matin, je vous écoutais et je riais fort. Finalement, Max, l'effort qu'il a mis, c'est de raconter, de dire, de nommer le line-up au complet des Canadiens. Ouais. Puis c'est surtout à quel point il se donne. Alors ça, vous écouterez ça à 16h, ça va être disponible en passant pour le meilleur et pour le pire.
Exactement. Il y a Nadine qui nous écrit aussi. Allô, Jeff et Pascal, Stéphane Lachance et l'opposition réagissent comme des gamins. C'est pire que la maternelle, leur réaction. Ben ça va de pair avec ce qu'on a dit. Hein? Il pourrait travailler sur d'autres dossiers que comparer la venue de Christine Fréchette à l'Hôtel de Ville avec la coupe des arbres sur René Lévesque. Avant qu'on parle de Pauline Marois qui s'est fâchée après François Legault, il est paternaliste avec Christine Fréchette. On va entendre l'extrait. On va en parler avec Rémi Villemeur. Circulation et manchette.
Oui, demain, on reçoit le maire de Saint-Augustin, puis dans son dans son coin, il y a un incident. Autoroute 40S, hauteur de la route Jean-Gauvin. C'est la voie droite qui est bloquée. Il y a une panne, ce que je vois sur les caméras du MTQ. Donc, on n'a pas terminé de tasser la panne. Soyez prudents. C'est sûr que ça ralentit là, à 13h17. Puis, c'est un endroit, Jeff, où ça ralentit vite. Fait que si tu arrives au-delà de la limite ou encore sur la limite, ça se peut que tu fasses... un saut. Également, dans l'actualité, Christine Fréchette s'en va rencontrer Mark Carney demain à Ottawa. Alors, ça sera quand même une rencontre à surveiller après celle du maire de Québec et celle de Christine Fréchette. Bien, continue un peu sa tournée du Grand-Duc, comme on dit. C'est la fin du courrier à la porte. On revoit un peu la façon dont ça va se passer à Poste Canada. Puis ça, ça veut dire découpure. Alors, pour récupérer votre courrier, ça va se faire d'une autre manière que celle que vous aviez l'habitude, soit d'y aller en pyjama, d'ouvrir la petite boîte, puis de prendre ce qui vous appartient. Ça sera plus possible pour 4 millions de Canadiens d'avoir les lettres à la porte. On annonce qu'on va mettre fin à ces livraisons-là partout au pays. Ça va probablement y aller avec des coupures d'emploi aussi, j'ai l'impression. Alors, on va surveiller le tout. Il y a une enquête du BEI sur la mort d'un homme à Québec. C'est une intervention mercredi à 13h50. On parlait d'un homme de 70 ans désorganisé qui pouvait mettre sa vie en danger, etc. Il serait muni d'une arme à feu. Et oui, on l'a vu sortir de son domicile avec cette arme à feu-là à Loretteville, sur la rue Albert-Trudel. Alors, on a utilisé l'arme à feu du côté des policiers. Il y a eu blessures et décès constatés à l'hôpital. C'est pour ça qu'on enquête en ce moment. On veut voir si tout a été fait dans la façon conforme de faire dans une intervention policière. Je peux aussi vous dire peut-être une petite info d'ambiance là, pour le Festival d'été de Québec, c'est Sean Paul. Il a annulé encore sa participation au Festival d'été.
Qu'est-ce qui se passe avec Sean?
Ben, il dit que c'est des raisons qu'il ne peut pas mettre de côté. Là. On n'a pas grand-chose sur cette annulation-là comme info. Il va être remplacé par le rapper canadien. C'est tough, ça, Jeff. BBNO... Hey, j'ai l'air d'avoir 40 000 ans, là. BBNO, signe d'argent. Bonobo, c'est ça?
Peut-être.
BBNO.
Peut-être, je sais pas. Je te laisse choisir.
Je le sais qu'il y a des hits, Jeff. On peut-tu passer à un autre sujet?
On va passer à un autre sujet.
L'an dernier, c'était moi, Clef Jack. Hey, le pire, c'est que... On avait laissé de côté cette nouvelle-là parce c'est qu'il y en avait tellement. Fait que je me suis pas dit, ben, comment ça se prononce? C'est ça.
Ben, c'est pas grave parce qu'on a Rémi Villeneuve qui est au bout du fil, donc on sera pas obligé de parler.
Bon, on pourrait demander.
Ouais.
Rémi?
Rémi, tu connais ça en rap?
Pas pire.
OK, le chanteur qui écrit son nom de chanteur, rapper, BBNO, signe d'argent, c'est quoi?
Ah, ça, je sais pas. Non, désolé, là. Ah, merde, j'aurais dû te dire.
Ça serait peut-être Baby No Money, mais je sais pas si je me fais niaiser par texto 88-971-1021. OK, merci, Rémi. tu viens de nous aider, mais yes. Tu le sais pas. Fait que là, on passe à ton vrai sujet.
Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal, du lundi au jeudi de 18h à 19h et les samedis avec Jacinthe Varel de 8h à 10h. Rémi, tu veux revenir sur Pauline Marois qui a traité François Legault de paternaliste? Alors, je te propose qu'on écoute l'extrait à ce moment-ci. Et par la suite, on commente.
C'est là-dedans.
Bon. D'abord, c'est vrai que les femmes sont souvent plus rigoureuses et sont souvent premières de classe. Les statistiques le prouvent amplement.
C'est un fait.
Mais ce qui m'a agacée, puis je ne veux pas blâmer le premier ministre parce que M. Legault, je pense qu'il voulait bien faire, évidemment, mais il a dit, bon, d'abord, je suis contente parce que c'est une femme. Et elle est compétente, elle est sérieuse, elle est rigoureuse. C'est comme, il n'a pas dit le mot « mais ». Mais c'est comme si on l'entendait. Mais rassurez-vous, elle est compétente, elle est sérieuse, elle est rigoureuse. On ne fait jamais ça quand on présente un homme politique, ministre des Finances ou dans des fonctions importantes. C'est un homme, mais il est compétent, il est rigoureux. Il y a un côté un peu paternaliste et en le fond, ça traduit le fait qu'on ne considère pas que c'est la normalité, qu'une femme puisse accéder à ces hautes fonctions. Et c'est un peu ce qui est agaçant, mais ça traduit aussi encore les préjugés qu'on a, les perceptions qu'on a à l'égard des femmes et de leur capacité à occuper des fonctions importantes comme celle de...
Rémi Villemur, on est-tu en train de chicaner pour rien avec Pauline Marois?
Bon, alors je vais faire pareil que Pauline Marois. Je vais d'abord rendre hommage à Pauline Marois. Donc, elle dit « je veux pas me chicaner avec François Legault, je pense qu'il a voulu bien faire. » Je pense aussi que Mme Marois a voulu bien faire. Mais je suis pas d'accord avec elle. Là. Puis je veux quand même le dire parce que, bon, déjà, il y a deux choses. La première, c'est elle cite à peu près au texte François Legault. Et là, ensuite, elle dit « il n'y a pas de limite, mais c'est comme si ». Alors, là, le problème, c'est qu'on est dans les suppositions, là.
Moi, l'interprète pas à peu près, là.
Ben là, c'est parce que je pense qu'il faut faire, il faut porter un jugement sur ce que les gens disent et ce que les gens font. Faut pas supposer, interpréter, lire des trucs dans des sous-textes, parce que là, à partir de là, c'est pas un vrai débat, c'est pas une vraie conversation qui est fondée sur des faits puis sur ce qui s'est véritablement produit. Puis d'ailleurs, je veux juste le dire, c'est souvent ça le problème. Dans des conversations en politique, idéologique, les gens prêtent des intentions à d'autres et ça serait tellement plus simple de porter un jugement et d'examiner ce qui se dit et ce qui se fait. C'est la première des affaires que j'observe et avec laquelle je suis un peu mal à l'aise. La deuxième est peut-être un peu plus centrale. Madame Marois, il y a quelques heures, elle a dit dans sa tournée d'entrevue que c'était une victoire pour toutes les femmes, la victoire de Christine Fréchette. Et savez-vous quoi? Je vais peut-être en surprendre quelques-uns, mais je suis assez d'accord avec elle. Mm-hmm. Dans la mesure où, si j'étais une femme et qu'il y avait juste eu Pauline Marois de première ministre et que ça avait duré 18 mois, ben je sentirais une fierté que ce soit une autre, qu'une deuxième femme seulement prenne le pouvoir au Québec, qui a été désignée ou élue. Mais quand Pauline Marois a dit que c'était une victoire pour toutes les femmes, elle a elle-même dit que c'était finalement anormal, que c'était finalement un événement en soi que ça se produise. Alors, elle ne peut pas reprocher à François Legault de dire, quand il présente Christine Fréchette, c'est une femme, et de supposer qu'elle aurait préféré qu'il fasse comme si ce n'en était pas une, si elle-même, selon elle, il s'agit d'un événement. Il s'agit de quelque chose d'extraordinaire en attendant que ça devienne la norme et que ça devienne ordinaire qu'une femme soit la première ministre au Québec. Comprenez ce que je veux dire?
Ben oui, j'adore où tu nous amènes parce que compte tenu que c'est un événement, ben tu peux pas reprocher à François Legault d'amplifier justement les compétences de Christine Fréchette en disant, vous savez, les premières ministres, puis en plus, elle est bonne là, parce que si c'est un événement si particulier... Faut que tu racontes aux gens pourquoi cet événement-là est arrivé.
Oui, et regardez, on ne tombera pas dans le piège de la supposition, mais je connais des gens, donc pas Pauline Marois, je ne supposerai rien, mais je connais des gens qui auraient reproché à François Legault de faire comme s'il s'agissait d'un événement qui n'en est pas un ou finalement d'un geste qui est tout à fait banal que de présenter le prochain premier ministre. On aurait dit, ah, il a manqué l'occasion de souligner que c'était historique. Alors, François Legault, on revient au premier constat de Pauline Marois, il a voulu bien faire. Et c'est un peu, c'est comme difficile de plaire à tout le monde dans une situation comme ça, parce qu'on aurait des gens qui voudraient qu'il insiste sur le fait que c'est une femme. Il mentionne que c'est une femme, mais là, il y a des gens qui disent qu'il n'aurait pas dû le faire, parce que s'il dit que c'est une femme, c'est comme s'il apprenait pour sa fille qui réussit à intégrer l'équipe de hockey.
Fait que dans le fond, il est perdant-perdant, François Legault, aux yeux de plusieurs féministes.
Oui, puis je vous en aurais pas parlé aujourd'hui si ça ne représentait pas quelque chose en soi. C'est un vrai phénomène, le fait qu'on prête des intentions aux autres, qu'on est amer. et qu'on essaie de lire et d'identifier des espèces de lacunes et des signes avant-coureurs de quelque chose d'autre. Regardez, là, François Legault, on le connaît, là. C'est pas un misogyne. C'est pas un. J'ai même dit parfois que c'était sa force. OK, mais bon, il faut qu'on son inscription dans un contexte qui met un petit ton paternaliste, qu'il avait un petit ton paternaliste. Ça faisait du bien à certaines personnes pendant une certaine période de l'histoire du Québec, d'accord? Mais dans ce cas-ci, on l'a senti depuis le début que Christine Fréchette était sa candidate préférée. Mm-hmm. S'il avait été un genre de mononcle misogyne qui veut rien savoir des femmes, ça serait pas la première fois qu'on le découvre.
Oui, puis c'était aussi un quitte ou double pour Pauline Marois de parler de ça. Elle a été questionnée, donc elle a répondu à une question. Je pense que c'est souvent aussi mettre une femme sur un genre de siège ballottant. Quand on arrive avec des questions comme « Êtes-vous contente que ce soit une femme qui soit à la tête du Québec? » Tu sais, répondre à ça, là, soit tu te fais prendre pour une féministe enragée ou encore, ben tu ne défends pas assez les femmes en mettant la lumière là-dessus. C'est toujours sensible. On dirait qu'il n'y a pas de moyen d'être dans nuance, d'être juste content de, oui, que quelqu'un ou un statut arrive à une position haute dans la hiérarchie ou encore, tout simplement, que ce soit une égalité puis que tout le monde laisse la rivière couler puis on passe à autre chose.
Ouais, mais là, je vais être obligé, par contre, d'être un peu plus sévère que toi, Pascal, parce qu'elle a le loisir, Pauline Marois, d'arriver et d'être nuancée lorsqu'on lui pose ces questions-là. Elle est à la relative retraite en ce moment. Elle sait très bien que lorsqu'elle va se faire poser des questions au lendemain de l'élection ou de la désignation d'une femme première ministre, ces questions-là vont porter précisément sur un sujet. Je veux dire, elle n'a pas l'excuse de s'être échappée, de ne pas avoir été suffisamment claire. Je veux dire, elle a à peu près juste ça à faire, réfléchir à ces questions-là quand il est question de préparer une entrevue comme ça. Elle les connaît, les questions. Il n'y a pas de curveball là, pour Pauline Marois là, quand elle arrive en entrevue sur ce sujet-là.
Mais toi, tu penses qu'au moment où elle dit, ça traduit le fait qu'on ne considère pas que c'est la normalité qu'une femme puisse accéder à ces hautes fonctions-là, c'est mettre de l'huile sur le feu?
Non, mais je considère juste qu'elle se contredit complètement. C'est-à-dire que elle a dit quelques heures avant de donner cette entrevue-là que c'était la victoire de toutes les femmes. Donc, on inscrivait ça dans un mouvement et dans un événement, finalement, dans un mouvement extraordinaire. Puis là, elle vient reprocher au premier ministre de faire référence à ça aussi, au fait que c'est une femme. Donc, je dis juste qu'elle se contredit. Moi, en ce qui me concerne, je pense que cet événement-là, c'en est un. C'est-à-dire, c'est pas arrivé souvent, là, à la tête du gouvernement du Québec, ce soit une femme. Donc, quand elle a dit que c'était une victoire pour toutes les femmes, je l'ai réalisé. Puis après, ça voulait pas dire qu'il y avait des femmes plus, mettons, fédéralistes ou plus souverainistes que les Christine Fréchette en secret, qui peuvent ne pas trouver que c'est une victoire pour elles parce qu'elles ont une personnalité qui leur est propre, elles ont des idées qui leur sont propres. C'est pas ça que je dis. Mais symboliquement, c'est une victoire pour toutes les femmes, oui.
Rémi Villemur, on change de sujet parce que tu m'as jeté à terre quand tu m'as envoyé l'article du Devoir qui parle qu'avec l'intelligence artificielle, avec le virtuel, maintenant, on sort les aînés de l'isolement social. Il y a eu jadis les clowns, il y a eu les toutous, puis là, on est rendu avec des masques virtuels. Coudon, on n'est pas capable d'être en contact humain avec nos aînés. Qu'est-ce qui se passe?
Mais c'est un reportage du New York Times qui a été traduit en français dans le Devoir. Moi, ça me surprend pas parce que ça fait des années que je parle du métavers, de cette évasion qui est de plus en plus tentante dans les univers parallèles. Et là, ce sont effectivement des personnes âgées parce qu'on sait que la solitude, il y a des médecins qui ont déterminé que c'était aussi meurtrier que de fumer 15 cigarettes par jour. Hein? L'OMS, on en a déjà parlé ici, a déterminé que c'était une maladie vraiment là qui était l'une des maladies les plus dangereuses au monde. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui ont des bonnes intentions puis qui veulent pallier à cette situation-là, qui veulent remédier à ça. Mais là, le malaise que j'ai, c'est que bon, la réalité virtuelle, l'exemple qu'on donne dans le reportage, ce sont des personnes âgées qui se promènent à Barcelone. Tu sais, puis là, ils disent aux journalistes, je suis jamais allé à Barcelone. Puis là, je me promène à Barcelone. Puis c'est cute. J'en conviens.
Oh oui.
Mais ça vient un petit peu. Maintenant qu'on répand ça à la grandeur de l'humanité, ça pourrait devenir finalement une façon de ne pas faire les choses vraiment que d'avoir la possibilité de les faire en virtuel. Mmh. J'exagère, mais c'est parce qu'il faut prendre ce phénomène-là et le répandre. Si c'est juste un loisir dans ton sous-sol, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si les gens commencent à voyager sans voyager, bah écoutez, on a quand même été capable de draguer sans draguer. Hein? De faire l'amour sans faire l'amour, de faire du sport sans faire du sport, d'avoir des amis sans avoir des amis. La technologie, elle a fait des trucs quand même assez, je dirais, splendides et moins splendides des fois. Donc, je m'inquiète pour ça, mais je m'inquiète aussi pour autre chose. C'est que finalement, on a des gens seuls et on leur dit, regardez, utilisez cette espèce de casque-là et vous serez plus seuls. Et encore une fois, c'est comme si on disait, il y aurait aussi la possibilité que des humains rendent visite à ces gens-là, mais c'est tellement plus simple qu'une machine le fasse à notre place. Et ça, je pense que au devant de ce que je vous ai dit là, il y a quelques secondes, c'est le principal péril, parce que ça fait l'affaire de tout le monde. Ça fait l'affaire, et surtout l'affaire de ceux qui veulent pas perdre de temps à aller voir grand-maman, grand-papa, la vieille tante qui a plus personne, puis qu'il faut faire une heure de route pour aller la voir, puis oh mon Dieu, on va gaspiller notre journée, ta-ta-ta-ta-ta. Et ça, je plains cette époque.
Ouais, on va y mettre un casque plutôt qu'être en contact humain. Rémi Villemur, toujours un plaisir de te parler. On te parle à chaque mardi et jeudi. Je te souhaite une bonne émission ce soir, une bonne émission samedi matin sur les ondes du 99.5. Et nous, on se parle mardi.
Merci à vous deux, pareil.
Salut Rémi. Salut. Rémi Villemur, excellent animateur au 99.5 Montréal. Pascal, on en parlait tantôt. Après la pause, on va parler du dossier santé numérique. Et pour se mettre justement dans le bain, voici un commentaire de Sébastien Houle, qui est journaliste au Nouvelliste, qui a creusé le dossier lui aussi.
Oui, mais dans le fond,
c'est... L'impression.
Excuse-moi,
vas-y. On s'est rendu compte qu'on avait le même constat. C'est ça. On n'arrive pas à rejoindre les gens qui devraient nous parler de ce dossier-là, qui arrive pour le 9 mai, normalement.
Bien, l'impression qu'on a quand on parle à des professionnels, des médecins, qui ont tous reçu ou qui sont en train de recevoir une formation, qu'on me dit, là, très intensive, 12-13 heures, mais on me dit, c'est très, très dense. C'est beaucoup d'informations. Puis le mot qui revient souvent, c'est contre-intuitif.
La foire est pognée. On réussira sûrement pas à mettre en branle le projet pilote le 9 mai prochain à Mauricie sur l'île de Montréal. On en parle dans On en jase dans quelques instants.
On en jase.
Il est présentement 13h38 minutes à la météo. 8 degrés à Verso-Bruine pour aujourd'hui. Bruine intermittente demain avec 14 degrés. Belle journée samedi à 16 degrés. Je vous rappelle le maire Marchand qui sera dans nos studios avec la gang de Gravel dans le retour. Denis, Audrey et Véro à compter de 16h30. Rendez-vous à ne pas manquer. Pas avant, peut-être que Denis va faire jouer à Catastrophe de Max Larouche et sa chanson, qui est pire que la CAQ selon plusieurs auditeurs. Pascal, on jasait en début de semaine puis on se disait, il arrive quoi avec ça, santé numérique? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Censé avoir un projet pilote le 9 mai, mais là, on n'en entend plus trop parler. Il y a des dépassements de coûts. Fait qu'on s'est dit, moi et toi, « Hey, Pascal, creuse-nous donc ça. Va donc aux sources pour voir. On va-tu le réussir, ce projet pilote-là? »
Ben oui, fait que là, je suis partie avec ça. Puis écoute, ça m'a pris une semaine à pas être capable de faire un dossier. Fait que c'est pour ça que c'est devenu un dossier,
ouais,
Jeff.
Parce que là, si personne veut te parler, c'est parce qu'il y a un gay sous roche, comme
dirait. Ou ils sont dans le jus, tu sais. Mais ce que je...
Mais c'est dans le jus, puis ça va bien, tu vas parler.
Absolument, t'es fier.
Tu vas te vanter.
Absolument, t'es fier de ton
projet. Tu vas dire, hey, checker ça. Ça clique, ça a été de la merde, mais pas de DSN.
Puis si on se trompe sur notre spéculation, du moins l'impression que ça donne, écrivez-moi, je vous rappelle, je vous recontacte dès demain, je vous recontacte dès lundi,
exactement.
Et ça me fera plaisir de vous parler. Puis si vous avez des infos, 418-971-101. Mais je vais te raconter une histoire, OK?
Vas-y,
je vais te raconter comment ça s'est passé ma semaine.
Vas-y.
D'abord, je fais des appels, j'écris des courriels à différentes personnes qui travaillent au sein des relations publiques puis relations médias pour le dossier Santé Québec et pour Santé Québec, point, pour le DSN. J'ai rien.
Okay.
Fait que là, bon, parfait. On jase ensemble, on se dit, ben...
Silence radio, comme on dirait.
Fait que là, ou refus, parce que j'en ai eu un refus. Ah oui. Là, on se positionnera pas là-dessus, on vous parlera pas, blablabla. Je continue, je t'en jase, puis là, ben, on va continuer. On va parler à quelqu'un qui travaille, tiens, en cybersécurité, puis qui a travaillé au sein du gouvernement. Fait que j'appelle qui d'autre que Steve Waterhouse?
Ben oui, notre expert.
Fait que on jase ensemble, puis on parle du fameux déploiement initial du DSN.
Le 9 mai, quoi qu'il y a des rumeurs qui disent que ça peut être reporté. Par contre, ça ne sera pas déployé à toute la province au complet pour qu'après ça, quand tous les accros repérés aient été arrangés, fixés, pour ne pas dire réparés, ben, ça va être à ce moment-là peut-être une autre phase qui va s'engager. J'espère que ça va être encore une autre phase parce que ça ne peut pas juste demain matin faire un gros déballement puis aller partout dans la province parce qu'au fur et à mesure que ça va s'en aller, Ben, il y a surtout la portion humaine qui doit s'adapter à ces nouveaux moyens de travail-là.
Ben, en tout cas, si on est prêt à faire le projet pilote en Mauricie puis sur l'île de Montréal, on n'est clairement pas prêt à le faire en province.
Fait que là, je me rapporte au courriel que j'ai eu des relations médias de Santé Québec. Ben je oui. me dis, bon, avec cette info-là, je relis ça. Ce qu'on me dit, c'est bonjour Pascal, on n'accorde pas d'entrevue pour cette fois. Voici nos messages, chose qu'habituellement ils font. Puis merci au moins d'avoir des ben messages. Oui. Mais tu sais, on me dit, les données du DSN sont hébergées au Québec et en Ontario par le fournisseur EPIC selon les hauts standards de sécurité. Les normes que je vous présente assurent la confidentialité. Donc, on est dans une grande mesure de gestion rigoureuse des risques. Complément d'information, le déploiement du DSN est toujours prévu pour le 9 mai.
Ah, ouais.
Là, on me dit, selon les rumeurs, on reporte. Puis là, ça coïnciderait quand même avec une couple de problématiques que moi, je commence
ben
à
oui.
voir.
Soit mais là, pourquoi on veut pas te parler si on le fait encore le 9 mai? Moi, c'est ça, je comprends pas.
Là, je demande
début,
à Sea Water House, est-ce qu'on est prêt?
On n'est jamais prêt, pour être en toute transparence, dans un déploiement, surtout dans cette ampleur-là. Mais particulièrement, le dossier santé numérique a fait l'objet, justement, de beaucoup de préoccupations côté livraison et que ce produit-là soit fiable. On a regardé ce que vous nous avez présenté, puis jusqu'à présent, on ne voit pas quelque chose qui est bien ficelé et ça a besoin d'être retravaillé avant que ça s'en aille en production. Et ça, c'est malheureux, mais la façon que travaillent au Québec les organismes indépendants, donc paragouvernementales, bien, ils ont une charte de travail à eux, par la loi, qui leur dit qu'ils ont plein contrôle et pleine raison de décider s'ils veulent ou pas faire mener un projet, même si un organisme comme le MCN a été mandaté pour voir à ce que ça soit l'expertise technique qui soit là. Malheureusement, même le premier ministre, légalement, il n'y a pas rien à dire pour l'intervention et fermer le projet comme tel. Tu sais, je le mets à l'extrême, mais il y a des juristes certainement qui pourraient peut-être me contredire ou venir appuyer ce que j'apporte.
Oh, tellement d'informations là-dedans. D'abord, moi, je me souvenais que le déploiement avait été prévu le 9 novembre 2025 ouais. initialement. On a reporté ça au 9 mai 2026.
Quand
puis
même
récemment,
un bon délai.
Ouais, un énorme délai.
Ben oui.
Puis récemment, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Gilles Bélanger, il s'est dit inquiet pour la protection des données de la santé des Québécois. Pour le lancement du dit projet pilote, il dit « on n'est pas prêt ». Et puis c'est un peu ce que confirme aussi Steve Waterhouse.
Ben oui.
Puis il dit même le premier ministre, maintenant la première ministre, ne peut pas arrêter le déploiement par un règlement clair et strict. Là. Ça ne se fait pas. OK, bon.
Il y a du pouvoir dans les mains de ceux qui s'occupent de ça. Puis là, moi, je me souviens d'avoir vu un article de Sébastien Houle dans le Nouvelliste là-dessus. Et lui, avait-tu été capable? Qu'est-ce qui s'était passé avec lui? Là?
Même souvenir. Fait que là, je me dis, ben, je vais aller aux sources. Je vais contacter oui. Sébastien Houle. Fait que j'ai premier appel avec lui, il me dit, hey, tu sais, passe, ça fait un bout que j'ai pas remis les mains là-dedans, un bout étant quelques jours,
ouais,
mais
ouais.
peut-être qu'on a des avancées, tout ça. Fait que là, je dis, as-tu été au courant comme quoi ça peut être reporté, qu'on serait pas prêt? Puis il dit, ben, j'ai une couple d'informations. Je dis, Sébastien, on peut-tu se reparler, s'il te plaît? Puis je peux-tu te clipper parce que je trouve ça hyper important, notre conversation en ce moment. Travail d'équipe dans deux médias différents. Sébastien Houle, qui est au Nouvelliste chez les Coop de l'information. Je veux vous le faire entendre sur le fait que c'est contre-intuitif. Selon lui, il a entendu plein de choses.
Bien, l'impression qu'on a quand on parle à des professionnels, des médecins, qui ont tous reçu ou qui sont en train de recevoir une formation, qu'on me dit, là, très intensive, 12-13 heures, mais on me dit, c'est très, très dense. C'est beaucoup d'informations. Puis le mot qui revient souvent, c'est contre-intuitif.
Ouais, ça se fera pas le 9 mai, Pascal.
Bien, on dirait pas, mais moi, ça m'amène à un stress en tant que citoyenne. Puis surtout qu'on peut pas se tromper. Puis j'en ai de ça avec Sébastien et Steve. Les projets numériques sont hyper importants. C'est essentiel.
On n'a pas le choix.
Mais avec le chaos puis l'échec qu'on a connu avec la SAQ Click, la Commission Galant, etc., déjà, on est un peu en porte-à-faux. On est un peu aussi là, sur notre... Tu sais, on est sur le qui-vive.
C'est clair.
On a des jugements. On peut pas se permettre un deuxième échec au Québec. Ça va être extrêmement difficile de faire avancer les choses. Puis on aurait dû prendre le train numérique il y a au moins 10 ans.
Oui.
Il y a du stress.
Tout ça dans un contexte où ces équipes-là travaille déjà sous pression dans un réseau là, qu'on sait là, qui est criblé de problèmes. Mais l'autre chose, c'est que pour implanter ce système-là, semble-t-il, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que les autorités ont dit, bon, on va vous donner du temps, on va vous donner de l'espace, c'est-à-dire qu'on va revoir les rendez-vous. T'sais, on va alléger les on va mettre des gens sur les listes d'attente, Bon, ce que les autorités sanitaires disent, on va gérer le plus urgent, là, on va pas repousser les rendez-vous urgents et critiques. Par contre, là, on va moduler les services pour vous donner le temps de travailler, parce qu'on est conscient que ça va bousculer un petit peu vos horaires.
Mais là, on a-tu assez de temps? T'sais, c'est sûr que quand t'es le premier projet après ça clique, t'as la goutte dans le dos, là, dessus, là.
Tu sues, puis j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont pas faire certaines étapes parce qu'on n'a pas envie de dépenser plus ou quoi que ce soit, mais on aurait dû. Mais ça, c'est une bulle à part. L'affaire, c'est que c'est pour Sébastien Houle, lui, il a encore l'impression qu'on va de l'avant selon ses informations. Puis ce que Santé Québec me dit, c'est la même chose, mais Steve Waterhouse me dit autre chose. Sur le terrain, ils disent autre chose à Sébastien Houle. C'est vraiment confus, là. Ouais. Est-ce qu'on va aller de l'avant?
Ça crée de l'inquiétude. Puis quand je dis inquiétude, là, moi, des commentaires que j'ai reçus, là, je pourrais même parler de panique. Les gens ont demandé, est-ce qu'on peut pas repousser ça, le temps là, de sentir qu'on est prêt? Semble-t-il que là, vraiment, les autorités sont décidées à aller de l'avant.
Panique.
Ah!
Ça, c'est un mot-clé pour moi. On panique sur le terrain, mais DSN veut absolument que ça se fasse. Fait que les hautes stratosphères, comme on l'appelle tout le temps, ils disent « Non, faut que ça se fasse, faut qu'on réussisse. » Puis le monde sur le terrain sont en panique. Ils disent « Oubliez ça, ça va être une catastrophe. »
Puis tu sais, c'est-tu parce que, ben tranquillement, on l'instaure, puis on va vouloir colmater les brèches quand on va les trouver. Mais c'est un pensez-y bien, parce que c'est sensible, là, c'est des données de santé des Québécois. Ben oui. Si on se trompe, on n'a pas la bonne chose qui est intégrée, on va peut-être se tromper dans les 10 dossiers. Est-ce que ça peut nuire aux soins? Tellement de questions fondamentales, là. Ça a fait suer avec les avec le paiement, avec les contraventions. Mais tu sais, est-ce que quelqu'un en est mort?
Non.
Je pense pas.
Est-ce que quelqu'un prend mourir de ça? Oui, si t'as pas les bonnes informations médicales.
Je me demande, puis tu es allé plus loin parce qu'il est revenu lui aussi sur le ministre Bélanger qui a levé une sonnette d'alarme. Alors pour Sébastien Houle, journaliste au Nouvelliste et au COP de l'information, c'est un autre cri à prendre au sérieux.
C'est pas rien, là. C'est un ministre qui dit ça, là. C'est pas un haut fonctionnaire, c'est pas quelqu'un sous le couvert de l'anonymat. C'est quelqu'un qui a des responsabilités ministérielles. Bon, il a pas un pouvoir décisionnel. Ça, il l'a dit d'entrée de jeu. C'est pas moi qui peux, en bon français, tirer sur la plug. Mais c'est un ministre qui dit ça. Là, il y a le contexte. T'sais, on est encore dans la foulée du fiasco Saclic. Puis Dieu sait que ça a ébranlé le gouvernement de la CAQ. Puis là, t'as une nouvelle première ministre qui veut faire une rupture avec le passé, qui veut faire sa marque. La dernière chose dont elle a besoin, c'est qu'on fonce encore dans un mur avec un dossier de cette nature-là. Si c'est une réussite, bien là, c'est un coup de circuit. Mais le kit ou double, là, m'apparaît assez audacieux.
Pascal, je vais donner un conseil à notre nouvelle première ministre. Reporter le tout. Ne partez pas en élection avec un deuxième fiasco.
Soyez prudents, là. Soyez prudents. Ce serait le mot d'ordre aujourd'hui.
Puis,
je vais les recontacter, Jeff. Je
lâche
pas
oui.
Le morceau.
On lâche pas le morceau. On reste en contact également avec Sébastien Houle, excellent journaliste au niveau du Nouvelliste. Merci, Pascal. C'était très, 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 très intéressant. Courte pause et par la suite, on va terminer ça en sport. Avez-vous hâte que les séries du Canadien commencent? Moi, oui, mais ça, on s'ennuie du hockey.
On en jase jusqu'à...